Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas, mon cœur, parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour streamer sur Acropolis. On trouverait plus normal d'aller streamer seul dans les genêts. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai bougé la caméra, du coup j'ai la tête dans le logo, tout va bien. On est sur un stream professionnel réalisé par des professionnels. N'essayez pas de professionnaliser ça chez vous. Bonjour, bonjour, bonjour Yuki, bonjour Selnemar, bonjour Selan, bonjour Kylian, bonjour Petit Crevette, salut Le Gros Gag, salut Exodes, salut Kylian, je te dis, peut-être, mais tu le mérites, c'est pour ça. Salut Emu, et voilà, je crois qu'on a fait le tour des premiers de cordée, les premiers levés, c'est vous. Et ça me fait plaisir au cœur, là, voilà, à peu près. Voilà, comment ça va? Des polycornes dans le chat, licorne politique. Et bonjour Sylvain, bonjour Acropolien, bonjour Internet, belle journée, semaine pleine plein de soleil, d'arc-en-ciel et de licornes politiques. YOLO. Oui. Bienvenue dans le monde des bisounours. Vous êtes bien sur Acropolis et ça se passe bien. Bah moi ça va. Hein. Contrairement à ce que j'aurais pu craindre, ça va. On n'est pas sur on est sur un lundi matin, quoi. Ça reste un lundi, hein, évidemment. Mais voilà. Est-ce que je mets les oiseaux? Parce que j'ai entendu les oiseaux juste au moment où je mettais le générique, donc je me suis dit peut-être qu'il n'y aura pas besoin de mettre de faux oiseaux cette fois-ci. Puis en fait, ben, depuis que j'ai ouvert le micro, ils se taisent. Ils sont timides. Il faudrait qu'on fasse une étude sur la timidité des oiseaux. Je pense que c'est important. Surtout la timidité de celui qui a lâché sa production de type digestive sur ma veste la semaine dernière, à qui je tiens à rendre hommage. Voilà, c'était un moment de communion entre la nature et moi-même, et c'était assez fort en fait. Voilà, hop, petit peu d'oiseau. Ce stream n'a jamais été aussi bien préparé. Et pourquoi? Parce que le bon Kylian a anticipé dès hier soir pour commencer à bosser sur le contenu, sur la préparation, sur la matière finalement que nous allions partager ensemble ce matin. Et pour cela, je tiens à lui rendre hommage, je tiens à lui dire merci, hein, finalement. Oui, absolument, j'ai le lien du Framapad que je partage actuellement dans le chat. C'est une excellente remarque, j'ai effectivement oublié de le partager. Mais en fait, il est déjà pas mal rempli, donc n'hésitez pas à rajouter des choses si vous le souhaitez, hein, évidemment, de façon à compléter et à approfondir finalement les sujets que vous souhaitez voir abordés, que vous souhaitez voir approfondis, puisqu'il en est sur de l'approfondissement et finalement du creusage de sujet, du creusage de fin de phrase qui n'arrive pas à se terminer et qui est pourtant interminable, ce qui est assez logique finalement. Alors, il est 8h03 et 35 secondes. Je vous propose de rester dans la tradition, de rester dans les valeurs, dans les fondamentaux qui font ce live, qui font que ce live n'est pas comme les autres, et de passer tout de suite. Sylvain, je t'ai mis dans le Framapad une réponse à la question posée en fin de live la semaine dernière concernant le possible retrait de la NASA de l'ISS. C'est le premier paragraphe des infos scientifiques de la semaine. Un grand merci à toi, Emu. Exactement ce à quoi sert le Framapad. Je disais donc, nous passons tout de suite, sans transition, à la météo. Un jour, on aura des génériques. Hein. Un jour. Hop là. Oui, tout petit le logo. Voilà. Je vous annonce une grande nouvelle. Cette semaine, c'est la fin des orages sur la France. À peu près. Ah, mais je suis toujours surexposé en fait. Il n'y a pas de soleil, mais bref. Merci Célane pour ce générique de qualité. Ah. Excusez-moi, je lisais le message de Selnemar dans le chat. Alors, aujourd'hui, ça reste un temps bien chargé en orage, en pluie, en intempéries, en chaleur lourde, en grêle, tout ce qu'on aime hein, finalement, tout ce qui fait de nous la nation française depuis 15 jours. Un temps bien pourri aujourd'hui. Hein, ça reste. Alors, d'après la Météo France, les températures seront un peu moins importantes, un peu moins marquées aujourd'hui. Il faut le signaler. Excusez-moi, je presse mon café en même temps, c'est important pour la météo. Ça devrait se calmer un petit peu la fin de journée, en début de nuit. Hein. Chacun interprète, chacun son rythme finalement, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de faire-valoir, il n'y a pas de. Voilà. Et dans la nuit, on sera sur une accalmie en termes d'orage, à part sur le Jura. Parce que oui, là où c'est marqué 17 où il y a un orage, c'est le Jura, si vous ne le sachiez pas. Mardi, on est sur de la pluie, sur une partie de la France. C'est difficile à désigner parce que c'est la côte ouest et une ligne au nord et sur le Jura et sur Rhône-Alpes. Mais du coup, c'est un peu disséminé partout et c'est un peu compliqué à préciser géographiquement. Ça correspond à peu près à ce qui va se passer sur la journée, avec des températures situées entre 16 degrés Celsius et 25 degrés Celsius. À noter que le bassin méditerranéen sera recouvert d'un beau soleil. Et c'est une bonne nouvelle que je puisse regarder comme un lundi à cause de mes examens. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, le gros gag? Je trouve que la météo d'Acropolis, elle est pas top. Que fait la régie? La régie, elle dort actuellement au fond de la cave de son immeuble. À quand le fond vert avec le présentateur incrusté? Quand nous aurons par exemple l'énergie, premier article de la personne, quand j'aurai l'énergie d'aller au travail, au studio finalement, à 8 h le matin, ce qui n'est pas encore le cas, ça va peut-être changer, on sait pas, spoiler, voilà. Et quand j'aurai quelqu'un pour faire la régie. Je ne serai pas tout seul pour faire ce stream, par exemple. Voilà. Pour l'instant, c'est compliqué. On continue sur la météo, hein, parce que c'est quand même un peu le sujet du jour. Le sud de la France qui sera de nouveau concerné par des orages demain après-midi. Excusez-moi. Et ce sera seulement sur les Alpes en fin de journée demain. Et les pluies reviendront sur une bonne partie de la France dans la soirée. Et ça se décalera tranquillement sur l'est de la France. Mercredi, on est sur une France coupée en deux, entre le nord calme et le sud pluvieux. Sans toucher le bassin méditerranéen, évidemment, comme souvent. Et bonjour Padougar, pour une fois que je suis là aussitôt, merci à Nuit Blanche de l'E3. Bah, tu pourras venir nous faire un débrief de l'E3 aussi si tu veux. La conférence avec la sortie du nouveau The Elder Scrolls. Incroyable. Mais on est quand même sur une grande dominante soleil, calme, sérénité pour mercredi après-midi. Et pour la nuit de mercredi à jeudi également, à part sur les Pyrénées et sur les Alpes. Jeudi, ça commence sous les mêmes augures avec quelques périodes brumeuses tout de même. Signalons-le. Et le retour de la pluie sur, je vous le donne en mille, la Bretagne et la Normandie. Ces intempéries qui vont s'installer sur la France, qui vont progresser tranquillement vers l'est. Et qui vont rester relativement stationnaires finalement sur le quart nord-ouest du pays. Ça va continuer à progresser vendredi, ça se décalera légèrement sur l'est, permettant à la Normandie et à la Bretagne de retrouver le soleil. Et pour cela, je pense qu'ils en seront ravis. Quelques orages à signaler dans le sud-est de la France et notamment la Corse. Vendredi après-midi, excusez-moi, je lis les messages du chat. Et en soirée, ce sera pareil. Nuageux sur le centre de la France, orageux sur le sud-est, et le reste, c'est des petites brumes. Mais toutefois, quelques passages de la lune, finalement, puisqu'on parlait de la nuit. Samedi, une bonne partie de la France sera pluvieuse. Les deux tiers de la France, on va dire, les deux tiers sud et est. Ce sera pluvieux, mais alternance, on appelle des pluies éparses dans le métier, hein, finalement. Allant du sud-ouest jusqu'au nord-est, sans toucher l'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et dimanche, avec un indice de confiance de 3 sur 5, hein, finalement, plus généralisé, a priori, sur la France, sauf sur la Méditerranée, une nouvelle fois, et sauf sur la Bretagne également, signalons-le. Pour les jours d'après, on est sur de la pluie pour le nord et sur du soleil pour le sud. Un climat assez original. Hein. Voilà. Ça devrait s'éclaircir à partir de mercredi, grand soleil à partir de jeudi, à peu près partout sauf sur les montagnes, et un week-end presque parfait. Presque. Mais d'ici là, il se sera passé beaucoup de choses. Il est 8h10 et 47 secondes, précisément. Merci à tous d'être réveillés, d'être présents, d'être là, d'être force de communauté finalement. Et bah, je vous propose de passer à l'actualité hein, qui nous a été proposée et préparée, comme je le disais tout à l'heure, par Kylian. Et je vais commencer par répondre à la question, est-ce que quelqu'un sait si l'on peut assister au congrès de Versailles cet été? Et si oui, comment? Question de Le Gros Gag. Eh bien, j'ai envie de te répondre exactement ce que Kylian t'a répondu dans le chat. A priori, non. Mais je sais pas. Sauf que il y a une solution pour cela. On ne l'a pas encore dit, mais je sais pas si on l'a pas dit. Eh bien, il suffit de le regarder sur Acropolis, en fait, puisqu'on va le commenter. C'est le 9 juillet, normalement. Et on sera en live pour le commenter. Au retour, d'ailleurs, des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, où on sera également comme l'an passé. Et donc, on fera tout ça et on sera complètement crevé, mais on aime ça. Donc, rendez-vous sur Acropolis le 9 juillet pour le congrès de Versailles. Enfin, si, il y a une solution. Tu peux rester enfermé à Versailles la veille. Et le jour du congrès, tu ressors. Coucou! Connaissez l'UPR, par exemple. Proposition, après, c'est comme tu le sens, hein, je veux pas t'inciter à quoi que ce soit, mais. Quand les gens du Discord savent déjà tout en exclusivité, c'est beau. Bah, exactement, ça sert aussi à ça le Discord. C'est pour créer plus d'exclusivité entre l'Acropolisserie et sa communauté, finalement. Acropolis premier sur l'actu politique pour tout voir, tout savoir. Et d'ailleurs, je peux vous dire aussi qu'on est en train de se positionner pour récupérer la chaîne 14 de la TNT. Ah non, ça non, c'était une blagounette. Yuki est tranquille dans mon château, hein. Ouh, le réveil est difficile de Yuki. Elle a du mal à s'exprimer, c'est pas évident. La modération n'est pas. N'est pas matinale, visiblement. Compliqué. Alors, passons à l'actualité donc nationale. Il faut que je dise l'heure, donc je vais dire l'heure. 8h13 et 5 secondes. Première actualité, et je vais vous faire une petite astuce, finalement, dans ce live. Alors, hop, je retrouve ça. J'enlève le texte et vous allez voir pourquoi. Je vous repartage si vous voulez le Framapad, hein, au passage. Ah, terrible. Je peux pas faire ce que je veux. Alors, on va ajouter ceci. On peut pas croire comme ça, hein, mais c'est hyper préparé. Hein, ce stream est pro. On va parler en premier du blocage des agriculteurs. Et j'ai trouvé cette carte de l'AFP faite par l'AFP du coup. Hier, je me suis dit que c'était assez intéressant pour situer où se trouvaient les points de blocage. Donc, il faut savoir que la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, je pense que c'est à peu près un truc comme ça le sigle, a appelé au blocage des raffineries depuis. Donc, ça a commencé hier soir par les agriculteurs suite à l'annonce de trop, qui est celle d'autoriser l'importation, on en a parlé pendant les QAG, notamment dans les semaines qui viennent de passer, de 300 000 tonnes d'huile de palme pour la raffinerie de La Mède près de Marseille. Se trouve donc près de Marseille sur la carte, comme vous le voyez, juste ici, là. Pas facile. Enfin bref, là. Le président de la FNSEA a annoncé dès hier soir qu'au moins 5 sites étaient bloqués et 13 seront bloqués dès ce matin à partir de 9h. Alors, selon la FNSEA, cette décision revient à sacrifier la filière française de biocarburant pour sauver 250 emplois chez Total, alors que la culture du colza fait vivre 20 000 personnes en France. Le président de la FNSEA Île-de-France a déclaré, ouvrez les guillemets donc, si la société Total a intérêt à faire du biocarburant, mais qu'elle ne le fait pas à partir de colza qu'elle peut trouver en France et qu'elle l'achète moins cher, merci Captain Obvious, et que c'est économiquement plus rentable pour elle. Du coup, c'est logique. Suivi de soit on fait le choix de maintenir une agriculture en France, soit on fait le choix de l'agro-industrie ou des multinationales. Et ça dénonce. sentiment de mépris règne chez les agriculteurs de la part du gouvernement. Après des suites de mesures, ayant fait grincer des dents, tels le vin, la viande ou encore les traités économiques entre l'Amérique du Sud et le Canada. Avec l'Amérique du Sud et avec le Canada. Oui, des suites de mesures, oui, c'est bien ça, Kylian, pardon. Effectivement, parmi les choses qui sont dénoncées, le fait que la France et l'Europe, notamment, ont signé des accords de libre-échange avec le Canada, avec le Mercosur, donc l'Amérique du Sud, avec c'est l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, c'est en discussion en cours. Et que du coup, le vrai problème dénoncé par la FNSEA, c'est que la France impose à ses agriculteurs des normes aussi bien environnementales, des normes sociales, des normes, quand je dis sociales, c'est sur les emplois par exemple, sur les exploitations agricoles, et que ces normes ne sont pas aussi dures, ne sont pas aussi coûteuses au final pour les exploitants à l'étranger, notamment les producteurs d'huile de palme. En Asie du Sud-Est, et du coup ça crée une distorsion de concurrence puisque en Asie du Sud-Est ils peuvent produire pour beaucoup moins cher de l'huile de palme et ça coûte moins cher de la produire là-bas et de l'importer que d'utiliser les produits de la France, de la nation finalement. Et donc voilà pourquoi la FNSEA n'est pas contente. Alors à noter que ces blocages ont été appelés à la base par je sais pas comment on dit ont été appelés, ont été lancés, initiés par deux organisations. Il y a la FNSEA, il y a aussi les jeunes agriculteurs, le syndicat des jeunes agriculteurs comme son nom l'indique. Maintenant on va avoir de la palme dans les temps de Baer plutôt que du pétrole, peut-être que les poissons vont revenir. Eh bien l'histoire ne le dit pas encore, ça ne démarre, nous le verrons bien en suivant les prochains épisodes. Excusez-moi, la gorge est enrouée en cette belle matinée. Donc vous voyez sur la carte que j'ai mis à côté les différents points de blocage prévus ou appliqués, ou déjà en place. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus sur ces blocages. Nicolas Hulot a dû admettre que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il a autorisé la raffinerie à ouvrir, donc la raffinerie de la Med vers Marseille. Pour lui, ce dossier... de banane tombe on ne peut plus mal. Le 18 mai, deux jours à peine après l'officialisation de l'autorisation accordée à Total, le ministre lançait en grande pompe la mobilisation de la France en faveur de la préservation de la biodiversité. Et ce, à Marseille, non loin de la bioraffinerie. Drôle de hasard qui a valu à Hulot une pluie de critiques et de procès en incohérence. Car, en effet, la culture intensive des palmiers à huile ravage les forêts équatoriales primaires, en particulier en Asie du Sud-Est. Résultat, une faune décimée, dont les orang-outans. Il y a une vidéo qui a pas mal circulé la semaine dernière sur les réseaux sociaux. On voit un orang-outan se battre contre une pelleteuse. C'était assez marquant, évidemment, comme toutes les vidéos de ce type. Donc les orang-outans, les gibbons ou les tigres de Sumatra. Et bonjour, Fanny. Un bilan carbone catastrophique. Bienvenue sur ce triste constat. Les agrocarburants, dits biocarburants, à base d'huile de palme sont trois fois plus nocifs pour le climat que le diesel fossile. Ceux à base de soja le sont deux fois plus et de colza 1,2 fois plus selon l'ONG bruxelloise Transport et Environnement. Un malaise profond qui fait suite à l'annonce dans son plan climat présenté en juillet 2017, la publication d'ici mars 2018 d'une stratégie. D'ici mars 2018 on en rejoint. D'une stratégie nationale visant à mettre fin à l'importation de produits forestiers ou agricoles contribuant à la déforestation. Parce que le vrai problème de l'huile de palme, c'est la déforestation en fait. Et c'est problématique. Quand il y a moins d'arbres, ben c'est moins bien. Oui, je suis un expert. C'est important de mettre les mots sur les situations. Et voilà. Donc Kylian qui précise qu'effectivement c'était prévu pour mars 2018, mais qu'il n'y a toujours pas de stratégie nationale qui vise à mettre fin à l'importation de produits forestiers ou agricoles contribuant à la déforestation. Et l'autre enjeu, c'est que Total se défend notamment en disant que l'huile de palme importée est certifiée durable avec des règles strictes, mais la certification durable de la production de ce genre de choses en Asie du Sud-Est n'est pas du tout dans la même... c'est pas la rigueur, c'est... C'est beaucoup moins fort, c'est beaucoup moins difficile d'avoir ce label en Asie du Sud-Est qu'en Europe, par exemple. Les conditions sont beaucoup moins strictes. La déforestation est responsable de plus de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cette décision est très importante car nous allons fermer une fenêtre qui donnait la possibilité d'incorporer de l'huile de palme dans les biocarburants, avait alors incité à l'époque Nicolas Hulot. Celui-ci a été pressé de mettre de l'huile de palme dans son vin, la petite blagounette de Kylian, suite aux menaces de la Malaisie et l'Indonésie, principaux producteurs d'huile de palme, de ne plus acheter d'avions militaires français. On en revient toujours à des problèmes géopolitiques et d'économie à l'échelle mondiale. Dans quelle mesure est-ce que l'on doit négocier, est-ce que l'on doit se sacrifier le fait de plus vendre d'armes et donc d'impacter l'industrie militaire, l'industrie des armes en fait, qui est très 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 importante en France, malgré le départ de ce monde de Monsieur Dassault, comme vous le sachiez, et donc contrebalancé par le fait qu'on achète quand même de l'huile de palme à ces pays pour continuer le commerce bilatéral. Mais quand il y a moins d'arbres, il y a plus de feuilles, et donc plus de tracts contre la déforestation, donc moins d'arbres égale plus d'arbres, c'est QFD. Merci Célane pour cette analyse très pertinente, qui nous permet de trouver une note positive à cette situation. L'avis de Total sur la question me semble important de le souligner. Total, de son côté, a fait savoir à l'exécutif qu'il comptait bien concrétiser leur projet de reconvertir le site de La Mède, qui a cessé de raffiner du pétrole fin 2016. Total aurait, selon Nicolas Hulot, accepté de réduire significativement les quantités d'huile de palme utilisées et de prendre des engagements très précis sur la certification de leur origine et de leur mode de production. Voilà ce que je disais, la certification qui est très contestée. Effectivement, le site de La Mède raffinait du pétrole avant, et donc s'oriente sur les biocarburants. Et Nicolas Hulot et Brune Poirson, je crois, à l'Assemblée nationale aussi, avaient défendu le fait que, contrairement au projet initial, il y a beaucoup plus d'usage d'huile française qu'initialement prévu. A priori. Ainsi, le gouvernement a demandé à l'industriel de réduire autant que possible l'approvisionnement en huile végétale brute, et notamment en huile de palme, afin de consommer des quantités inférieures aux 450 000 tonnes que l'usine est autorisée à utiliser, et Total devra utiliser au moins 25% des matières premières. De matières premières issues du recyclage des huiles, qui sont les huiles alimentaires usagées, les graisses animales, les distillats d'acides gras, les fameux, hein, dont on parle chaque jour, évidemment. Le même jour, le géant pétrolier faisait profil bas, assurant prendre l'engagement de limiter l'approvisionnement en huile de palme brute à un volume inférieur à 50% des volumes de matières premières qui seront traitées sur le site, soit au plus 300 000 tonnes par an, sur 650 000 tonnes au total. Et bonjour Kobaru et bon passage en coup de vent. Bonne journée à toi. Total fera probablement comme ses concurrents Eni en Italie et Neste Oil en Finlande, qui ont fait tourner leur raffinerie avec le maximum d'huile de palme pendant 2 ou 3 ans, avant de diversifier leur approvisionnement avec des huiles plus chères, notamment parce que l'opinion publique n'est pas favorable à l'huile de palme, estime Fabien Cros, représentant CGT à La Mède. Alors là, pour le coup, la CGT est coincée entre les convictions écologiques et le fait que ça permet de maintenir 250 emplois à La Mède. Donc de la raffinerie dans le sud. C'est une ressource sous pression et dont on se sert pour manger. Total va peut-être importer du certifié, mais c'est d'autres importateurs qui vont importer du non certifié du coup. C'est possible. La CGT est perdue, la pauvre. Merci Kylian pour ce slogan qui pourrait être très drôle en fait. On a passé un peu de temps sur le sujet parce que c'est la grosse actualité clairement en ce moment en France. L'actualité est un petit peu pauvre, ce qui me permet de faire la transition à 8h24 et 30 secondes sur le second sujet que nous avons sélectionné. Alors je vais déjà enlever ceci, je vais vous remettre le texte et je vais vous parler suite à notamment l'interview d'Agnès Buzyn hier dans le journal du dimanche. Du plan anti-pauvreté qui sera présenté normalement en juillet par le président de la République. Alors, le président de la République s'apprête à présenter son plan donc anti-pauvreté, dont certaines mesures ont déjà été dévoilées dans la presse. Cependant, le chef de l'État devrait présenter ses mesures devant le Congrès de Versailles cet été, donc le 9 juillet. Ce plan devrait permettre notamment de corriger son étiquette de président des riches ou président des très riches, selon François Hollande. Alors, les mesures proposées seraient. Le décalage des lignes quand on fait des points. Et Fanny qui vient de renouveler son sub, merci madame. C'est fortement. Et un système d'automatisation, quand je lis un truc, ça se fait juste après, c'est incroyable. Merci Kylian. Cette interview d'Agnès Buzyn répond aussi, enfin d'Agnès Buzyn et du président de la République, répond aussi aux rumeurs, aux informations qui avaient fuité dans la presse sur le fait que le gouvernement voulait réduire les aides sociales. Et donc elle voulait, Agnès Buzyn a voulu prendre la parole pour justement défendre la politique du gouvernement dans ce sens. Pardon, à sa façon. Alors, les cinq principales mesures retenues par la rédaction d'Acropolis sont le versement social unique, donnant lieu au versement des différentes aides sociales en une seule fois dès 2019, l'objectif étant de réaliser 1 milliard d'économies en supprimant les prestations versées à tort. L'idée, c'est de tout regrouper en une seule prestation, qui serait demandée en une seule fois, du coup. Beaucoup moins de démarches à organiser, et certains comparent ça à une espèce de revenu de base. Puisque ce serait un seul revenu pour toutes les prestations, soit allocation familiale, allocation logement, allocation handicapée, voilà, tout le système d'aide sociale serait versé en une seule fois, le RSA également. Voilà une des propositions. Il y a également l'automatisation du versement des minima sociaux déjà arbitrés afin de ça. L'automatisation du versement des minima sociaux afin de s'assurer que tous les foyers qui peuvent y prétendre en bénéficient réellement. Il y a à peu près un tiers, je sais plus si c'est un tiers ou la moitié, non, un tiers, des gens qui peuvent toucher le RSA qui ne le touchent pas actuellement, pour plein de raisons. Pour cela, le gouvernement instaurera un système de bonus-malus pour les administrations versant ces aides, selon la députée La République En Marche Aurore Berger. Le journal du dimanche indique également que le gouvernement envisage l'idée d'une aide sociale unique. Sur une base, voilà, c'est ce qui est marqué au-dessus, ce qu'on a dit juste avant. Et en même temps, en parallèle, il y a 13 départements qui ont lancé une initiative et ils souhaiteraient expérimenter le revenu de base sous condition, le revenu de base idéal, de principe, qui pourrait se lier avec cette disposition du gouvernement. Ensuite, il y a l'accès universel aux crèches. Qui pourrait rendre obligatoire l'accès au mode d'accueil. C'est bizarre tes formulations, mon cher Kylian. L'idée, ce serait que tous les enfants, à partir de 3 ans, puissent être. Tous les enfants pourraient être garantis, même avant 3 ans d'ailleurs, de 0 à 3 ans, avoir la garantie d'avoir un espace d'accueil partout sur le territoire. C'est ça l'idée. Quelles que soient les conditions sociales de la famille d'origine, souvent c'est des enjeux de pouvoir faire garder les enfants, des enjeux financiers de pouvoir payer la garde de l'enfant. Et donc il y a un système de bonus-malus qui est envisagé, qui pourrait être mis en place pour les crèches, en fonction du nombre d'enfants pauvres accueillis. Une aide à la formation pour les jeunes, le gouvernement souhaiterait allonger la période de formation, à ne pas confondre avec scolarisation, obligatoire jusqu'à 18 ans, et tester les dispositifs de ressources sous conditions. L'idée étant que les jeunes soient en formation, soit au lycée, soit encore au collège pour ceux qui ont redoublé plusieurs fois, soit dans les formations d'autres filières professionnelles, professionnalisantes, l'apprentissage, etc. Jusqu'à 18 ans et non plus 16 ans, comme c'est le cas actuellement. Et ils envisagent de mettre en place des dispositifs de ressources sous condition, notamment pour les jeunes qui quittent le domicile familial avant les 18 ans. Et enfin, Emmanuel Macron pourrait également annoncer des petits déjeuners gratuits dans certaines écoles, voire certains collèges, ainsi que des tarifs progressifs dans les cantines scolaires. Le petit déjeuner gratuit, ça paraît anodin, mais en fait, l'idée, c'est que beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants dans des milieux défavorisés n'ont pas forcément un bon petit déjeuner le matin, voire n'ont pas forcément de petit déjeuner le matin parce que financièrement, c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas la culture. Il n'y a pas forcément le réflexe de prendre un petit déjeuner parce que le matin il faut se lever tard et c'est compliqué. Enfin, voilà, il y a plein de raisons qui font qu'ils n'ont pas forcément un bon petit déjeuner. Et pourtant, un bon petit déjeuner, c'est important. Un petit déjeuner équilibré, hein, avec l'ami Ricoré, notamment. Ceci n'est pas un placement de produit. De manière à être efficace, de tenir éveillé pendant les cours. Et donc de donner le moyen à tous les enfants, quelles que soient leurs origines sociales, d'être dans de bonnes conditions physiques pour suivre les cours. C'est ça la philosophie du truc. Chacun se fait son opinion, évidemment. Est-ce que ça concerne beaucoup de monde? Est-ce que j'en ai aucune idée? Mais c'est ça l'idée. Petit déj gratuit pour les jeunes. Ça, c'est une bonne idée du président. Merci, Célane. Pour cette remarque, il est 8h30. Ça n'avance pas ce matin, mais parce que c'est... Il y a du contenu, c'est bien préparé, c'est incroyable. Merci, Kylian, à nouveau. Petit déj au Nutella, huile de palme, tout est lié. Petit déj au Nutella total, huile de palme, Fanny. Soyons précis. Troisième actu que je voulais voir avec vous, ça va être assez rapide, c'est les municipales de 2020. Alors vous allez me dire, oui, mais on est en 2018, c'est dans 2 ans, on va pas commencer à nous gonfler avec ça. Eh bien si, parce que je suis comme ça déjà. Aussi parce que... politiquement, les élections municipales vont avoir beaucoup plus de poids en France que les élections européennes qui auront lieu, elles, en mai 2019. Donc on va en bouffer tous les matins au petit déjeuner. Vous voyez le lien entre les deux actus, qualité de l'animateur. Et du coup, je vais vous en parler dès maintenant. Et je dis pas que les élections européennes n'ont pas d'intérêt. Hein. Je dis que médiatiquement et politiquement, ça va être plus important dans ce qui va se passer en France. Et je suis convaincu que les élections européennes ont une importance au moins égale à celle des municipales. Mais ça, c'est voilà, un avis personnel. Là, on sent que Sylvain, quand il parle de petit-déj, il sait de quoi il parle. On le sent à l'aise. Bienvenue sur ce stream d'Orient. Alors, les municipales. Il y a eu plusieurs petites actualités qui ont été lancées la semaine dernière. Après l'appel du pied de Christophe Castaner aux Républicains, Laurent Wauquiez a indiqué qu'il n'y aura aucune alliance. Aucune alliance entre son parti et La République En Marche. Je n'aime pas ces petites alliances, ces petites tambouilles où on s'entend sur le dos des Français, des électeurs, pour surtout se partager le pouvoir. C'est toute la comédie que je déteste, affirme le président des Républicains. Laurent Wauquiez souhaite que son parti ait des candidats partout aux prochaines élections qui s'engageront, à la différence de La République En Marche, à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts. Laurent Wauquiez qui a remporté la région Auvergne-Rhône-Alpes grâce à une alliance de partis, hein, évidemment. L'autre information sur les municipales, c'est le député La République En Marche. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça, je voulais dire, rien à voir. Député de La République En Marche, Gabriel Attal, interrogé dans le grand jury RTL Le Figaro LCI, a annoncé qu'il verrait bien l'actuel porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux en tant que candidat à la mairie de Paris. C'est un peu un secret de polichinelle, c'est La République En Marche. Selon lui, c'est un ami, un marcheur de la première heure, c'est un vrai parisien élu à Paris qui connaît parfaitement la capitale. Je pense que Benjamin Griveaux fera un très bon maire de Paris. À 2 ans des élections, les potentiels candidats à la mairie de Paris commencent à se faire connaître. Il a notamment avancé le nom de Gaspard Ganzer, ancien conseiller de François Hollande, qui vient de lancer son mouvement Parisienne-Parisien. Même si ce dernier précise que ce n'est pas dans cet objectif, évidemment. Benjamin Griveaux a vivement critiqué l'actuel maire PS Anne Hidalgo de la capitale, ce sur quoi le député Gabriel Attal le rejoint. Quand on décide de limiter drastiquement la voiture sans se poser la question de savoir où les voitures vont se garer, c'est-à-dire dans les communes où je suis élu, ce n'est pas satisfaisant, déplore le porte-parole de La République En Marche. Et moi, je voulais vous parler des municipales 2020 parce que j'aimerais bien qu'on réfléchisse dès maintenant, vous, nous, ensemble, collectivement, finalement, créer un avenir en commun, à ce qu'on pourrait mettre en place sur Acropolis pour les municipales de 2020. Qu'est-ce qui vous semblerait pertinent? Est-ce qu'on réfléchit à faire des choses dans chaque région, pour parler de l'actualité dans chaque ville? Par exemple, il y a 13 régions en France, on pourrait faire les 12 mois dans l'année, donc ça marche pas. Toutes les semaines, on pourrait avoir une émission sur les enjeux des municipales dans telle région. Ça peut être faire des vidéos pour expliquer comment ça fonctionne les mairies. Ça pourrait être faire une émission spéciale sur les municipales, l'actualité des municipales, toutes les semaines, tous les mois. Voilà, c'est un peu un appel que je lance ce matin, le fameux appel du 11 juin 2018. J'appelle à vos propositions, à vos idées, à vos envies sur les municipales, sur comment on le met en place sur Acropolis aussi, quels sont les moyens humains qu'on organise, et s'il y a des bénévoles qui veulent se proposer. Enfin voilà, c'est j'ouvre le débat sur quelle place pour les municipales sur Acropolis à partir du moment qui sera jugé pertinent, certainement en septembre, mais voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer faire vos propositions sur le Discord, sur les commentaires, sur tout ce que vous voulez. Nous sommes à votre écoute, il est 8h35, il y a beaucoup d'actualités internationales. Je vais avancer, sinon on sera en retard pour la chronique de Clément. Voilà, ce sera intéressant de comprendre comment marche une mairie, effectivement. Et il faut trouver la forme qui sera la plus adaptée pour cela. C'est tout l'enjeu. Et bonsoir, Salim. Il est 8h37, Sylvain. Pourquoi tu veux qu'on réfléchisse tout à coup? Il est 8h35, Fanny. Arrête d'être dans le futur tout le temps. C'est agaçant. Extrêmement agaçant. L'actualité internationale, évidemment, a été dominée par le G7, les 7 pays les plus industrialisés, démocrates, libéraux, occidentaux, tout ça, tout ce qu'on veut, de la planète, qui se sont réunis au Canada, même au Québec pour être précis, la semaine dernière, en fin de semaine. Et Donald Trump a fait une petite blagounette. Samedi 9 juin dernier sonnait la fin du sommet du G7 au Canada, marqué par l'arrivée en dernier et le départ en premier du président Donald Trump suite aux vives tensions après la mise en place de taxes douanières par les USA contre les Européens, le Canada et le Mexique, notamment sur l'acier, on en a beaucoup parlé. La Chine démocrate, la Chine n'est pas dans le G7, mon cher Kylian. C'est le Japon qui est dans le G7. Durant ce sommet, les pays se sont accordés sur plusieurs mesures, la paix et la sécurité dans le monde, ainsi que l'égalité homme-femme. D'autres n'ont pas été avalisées, comme la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution plastique des océans. Cependant, dans la nuit, après son départ, Donald Trump a publié un tweet dans lequel il se désolidarise du communiqué final du G7 sur le commerce, qu'il avait pourtant accepté dans un premier temps. Alors, il a refusé à se marquer en bas, en fait. Ok. Après cela, l'Élysée a réagi en déclarant: La France et l'Europe maintiennent leur soutien au communiqué final du G7. Tout comme nous l'espérons, l'ensemble des membres signataires. Nous avons passé 2 jours à avoir un texte et des engagements. Nous nous y tenons. Et quiconque les quitterait le dos tourné montrerait son incohérence et son inconsistance. Soulignant que la coopération internationale ne peut dépendre de colère ou de petits mots. Soyons sérieux et dignes de nos peuples. Nous nous engageons et nous tenons. Parce que c'est par un tweet qu'il a annoncé Donald Trump qui se retirait de la signature. Angela Merkel a fait savoir par le biais de son porte-parole que l'Allemagne soutient le communiqué conjoint, le ministre des Affaires étrangères allemand ajoutant qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour reconstruire la confiance perdue. Alors selon le président américain, le retrait des États-Unis du texte serait dû aux fausses affirmations de Justin Trudeau, premier ministre canadien, qui a dénoncé lors de la conférence de presse les droits de douane presque insultants mis en place par Washington. Le premier ministre Trudeau du Canada s'est montré docile et modéré pendant nos réunions au G7. Tout cela pour donner une conférence de presse après mon départ dans laquelle il déclare que les droits de douane américains sont presque insultants et qu'il ne se laissera pas bousculer, réagit Donald Trump. Très malhonnête et faible, a-t-il ajouté. Son conseiller économique avait affirmé sur CNN que Trudeau les avait poignardés dans le dos, expliquant que le président américain avait réagi de cette façon pour ne pas montrer de faiblesse avant le sommet avec Kim Jong-un. Et bonjour Che et Nibal. Le Premier ministre n'a rien dit qu'il n'avait pas déjà dit auparavant, autant publiquement qu'en conversation privée avec le président, soutenu les services de M. Trudeau, alors que Vladimir Poutine, qui a rencontré ses homologues chinois et iraniens, a ironisé sur le babillage inventif des pays du G7, les appelant à une vraie coopération. La France prend désormais la présidence du G7, qui se tiendra à Biarritz à l'été 2019. Voilà, encore une belle séquence internationale qui a eu lieu ce week-end avec le bon Donald. Je me permets de faire une parenthèse à nouveau parce que j'aime digresser finalement. Que voulais-je dire? Oui, à propos de Justin Trudeau, j'ai découvert tardivement, comme beaucoup de monde connaît déjà certainement, les documentaires présents sur la chaîne YouTube de Arte plus 7, qui sont en fait les rediffusions de Arte, et notamment un documentaire sur Justin Trudeau qui est vachement intéressant. Et donc je vous invite à aller jeter un œil à cette chaîne, qui a plein de choses très intéressantes. Il y a le dessous des cartes qui est assez connu, mais que je trouve toujours très intéressant. Donc le documentaire sur Trudeau, un documentaire sur la propagande et comment on réussit à convaincre des peuples, et à, entre guillemets, manipuler des masses. Et c'est passionnant. Vraiment passionnant. Et ça occupe très très bien les nuits d'insomnie, accessoirement. Il y a vraiment plein de trucs sur RT7, RT plus 7. Alors, leur gros défaut, c'est qu'ils mettent 45 vidéos par jour, donc dans le flux d'abonnement, c'est juste pas possible. Mais encore trois actualités. Singapour, effectivement, le lieu où aura lieu demain Donc ce sera à 3h du matin dans la nuit de aujourd'hui à demain pour nous, la France. La rencontre, la fameuse rencontre entre Little Rocketman et le psychopathe Trump. Deux expressions qu'ont utilisées chacune par l'autre interlocuteur. Donald Trump, à peine sorti du G7, s'est envolé immédiatement pour Singapour où il rencontrera Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. En quittant le G7, Trump a déclaré: c'est un territoire inconnu au sens le plus vrai du terme, a-t-il déclaré au sujet de ce premier sommet jamais réalisé entre les deux ennemis d'hier. Mais je suis vraiment confiant, j'ai le sentiment que Kim Jong-un veut faire quelque chose d'extraordinaire pour son peuple et il a cette opportunité. Il n'aura pas d'autre opportunité. Si en effet, dès mardi, les deux hommes se rencontreront pour ce sommet inédit, Trump avait proposé des garanties pour la sécurité du régime et des aides économiques en échange d'un démantèlement complet, vérifiable et irréversible du programme d'armes de destruction massive du Nord, de la Corée du Nord. C'est une occasion unique et je pense que ça va fonctionner très bien, a-t-il affirmé, en ajoutant qu'il sera probablement dès la première minute si Kim est véritablement prêt à négocier. Je pense que très rapidement, je saurai si quelque chose de bien ou pas va arriver. Je pense aussi que je saurai si les choses iront vite ou pas. Dernièrement, Trump avait assuré qu'il quitterait vite le sommet en cas d'échec. Dommage, RT plus 7 n'est pas disponible. Ah bon? Il y a des restrictions géographiques? Merde. Où les deux dictateurs, comme a dit Fox ce week-end, sont faits exprès, c'est absolument nibel. Fox, qui est la chaîne préférée de Donald Trump, a parlé des deux dictateurs qui allaient se rencontrer à Singapour, et c'était assez drôle. Imaginez, ils deviennent copains, l'angoisse. Moi, je trouverais ça assez cohérent, Fanny, quelque part. Hein, une certaine harmonie entre les deux. Et il y a eu deux élections ce week-end à travers le monde, hein, finalement. Deux élections, il y a eu des élections en Irak, le plus grand dépôt de bulletins de vote incendié avant un décompte. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue, mais de nombreux Irakiens dénoncent une énième manipulation du résultat des législatives de mai. Ah oui, c'est il y a eu des problèmes suite à des élections. L'incendie s'est déclaré dans un entrepôt du ministère du Commerce à Bagdad, où étaient entreposées les urnes d'Al-Roussafa, la plus grande circonscription d'Irak. 60% des 2 millions d'électeurs dans la capitale y ont voté. L'origine de l'incendie divisait les Irakiens sur les réseaux sociaux. Certains croyaient à un sinistre accident, d'autres assuraient qu'il s'agissait d'une action préméditée. Et pendant ce temps-là, on ne sait pas où ça en est. Et enfin, élection municipale en Italie, toujours aucun résultat ce matin selon l'équipe de rédaction d'Acropolis. Une série d'élections municipales s'est tenue ce dimanche 10 juin du nord au sud de l'Italie dans 760 communes. Elles vont permettre de mesurer les premières réactions des électeurs face à l'alliance entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles qui ont formé le premier gouvernement populiste des pays membres fondateurs de l'Union européenne. Elle représente aussi un test pour le Parti démocrate de centre-gauche et Forza Italia de Silvio Berlusconi, la droite libérale, qui ont réalisé leur plus mauvais score aux législatives du 4 mars. En cas de ballotage, un second tour se tiendra le 24 juin. Ces élections permettront de vérifier le poids des forces politiques au pouvoir qui ne se présentent pas ensemble et celui des partis de l'opposition. Elles concernent aussi bien des villes du nord comme Trévise, que du centre comme Sienne, du sud comme Catane en Sicile. Dans le Piémont, le mouvement 5 étoiles espère rafler au centre-gauche la ville ô combien symbolique d'Ivrea. Adriano Olivetti y créa sa première usine de machines à écrire et fut le premier industriel d'Italie à aborder les problèmes de la protection du territoire et du développement durable. Voilà, on aura plus d'infos sur les élections municipales dans les heures qui viennent, certainement pour l'Italie. Il est 8h44, ah j'ai une minute d'avance, j'ai lu 8h44 et je pensais qu'il était 45. Du coup j'ai accéléré pour rien, bah bravo. Alors que la régie n'est pas réveillée, mais que la chronique se prépare pour 8h45, donc je vais commencer à préparer l'overlay, hein, finalement, en tant que bon professionnel de la régie. Ce qui va me laisser le temps de faire des petites manipulations d'informations. Voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, tout est sous contrôle, tout est sous maîtrise, il ne se passe rien d'inhabituel. Voilà. Finalement, même si Google me pose des petits soucis, ça va bien se passer. Hein. On va faire ça comme ça. Je peux recommencer à lire. Ouais, je vais recommencer, tiens. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Alors, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ceci. Et je pense qu'à 8h45, on peut changer le petit logo. 8h45 dans le monde. on est à l'heure. Et on peut lancer l'appel. De quoi va donc nous parler notre cher Nibal? C'est une vraie question.
Allô, j'écoute.
Et bonjour, monsieur Clément, comment vas-tu?
Bonjour, monsieur Sylvain, comment allez-vous?
Formidablement bien, dans cette belle journée de printemps.
Ah bah nous, on a une journée de merde.
Bah bravo. En même temps, c'est le nord, hein.
Ah, mais jusqu'à maintenant, on avait du soleil, des 28 degrés, tout ça, c'était l'été avant l'été. Et là, on est reparti en automne.
Eh ben, c'est le sens de l'histoire, finalement, j'ai envie de dire. Après le beau temps, l'automne.
Après la vie, la mort, tout ça. Alors, tout ça pour bien commencer un lundi matin.
Exactement. Toutes les bonnes choses ont une fin. Merci, Kylian, d'ajouter... d'ajouter ton point de vue à ces réflexions de profondeur. Alors, normalement, tout est prêt de mon côté. Normalement.
Est-ce que tu as reçu les fichiers que je t'ai envoyés il y a à peu près 45 secondes?
Absolument, c'est pour ça que j'ai gagné du temps hein, sur l'appel et sur la transition.
Je les ai finis à 1h moins le quart, mais j'ai oublié d'appuyer sur envoyer.
Oups. Normalement, tout est là. Je vais préparer pour que ça se passe bien. Et en attendant, on vient de passer les jours fériés de mai, Nadal vient de gagner Roland-Garros, la Coupe du Monde va commencer, les journalistes sportifs ne redécouvriront le dopage qu'à la fin du Tour de France, évidemment. On se prépare à voir des sujets de philosophie dans BFM TV et à se moquer des perles du bac sur Twitter et n'en touche pas à mon poste. D'ici quelques semaines, les youtubeurs et streamers mal organisés vont arrêter de poster du contenu pendant plusieurs semaines. Bref, pour notre génération, tout cela a un air de grandes vacances. Hop, et là je fais la transition magnifique, tout est prêt. Donc Clément, aujourd'hui tu vas nous parler de temps libre, de vacances et de voyage.
C'est ça, ou plus exactement on va parler de cette activité ou inactivité qui s'est démocratisée dans la deuxième moitié du XXe siècle, le tourisme de masse, et qui a permis à nos grands-parents, parents, tata, tonton, voisins, collègues, cousines, de prendre un bus climatisé pour manger une glace et aller voir les pyramides d'Égypte. Alors c'est un concept forcément associé aux vacances, à des avancées sociales comme les congés payés, qui sont développés partout dans le monde, dans la loi ou la pratique, avec 1 à 5 semaines de congés payés selon les pays, après une ou plusieurs années d'activité. Il s'est aussi développé grâce à l'évolution, voire la révolution des transports en commun. Et il permet aujourd'hui à n'importe quel touriste allemand de découvrir en pension complète la beauté du bétonnage des plages espagnoles depuis sa chambre d'hôtel, traversée par la douce odeur de saucisse d'un petit déjeuner bavarois. Alors c'est aussi une source non négligeable d'emploi. Dans l'Union européenne des 28, c'est pas loin de 5% des emplois qui y sont liés, avec 12 millions d'emplois directs ou indirects. C'est un secteur qui utilise ou donne une chance, selon les opinions, à des populations plus précaires ou habituellement discriminées, en embauchant plus de femmes, de jeunes, d'immigrés ou de personnes sans diplôme que d'autres secteurs. Alors ils les embauchent tout en leur offrant quand même des conditions de travail plus précaires que le reste du marché de l'emploi, avec des contrats beaucoup plus temporaires et un taux horaire beaucoup moins important, en moyenne 15% de moins que le reste de la population. Mais en même temps, un emploi, c'est ça qui est bien, et c'est important.
N'est-ce pas? On aime travailler. Alors,
et gratuitement, si possible.
Si possible.
Une des formes les plus emblématiques du tourisme, ou plutôt du tourisme de masse, qui nous intéressera plus dans cette chronique, est apparue sous sa forme actuelle à la fin des années 70, le bateau de croisière. Mais si la croisière s'amuse, elle pollue aussi beaucoup. Alors, un bateau de croisière produit beaucoup de pollution de CO2, de particules fines et autres ravissantes déjections. C'est l'équivalent par jour d'1 million de voitures au moins. Cela est dû au pétrole pas cher mais dégueulasse, utilisé pour déplacer ces masses au fond des mers.
Attends, excuse-moi, quand tu dis c'est l'équivalent par jour d'1 million de voitures, c'est par bateau ou c'est l'ensemble des bateaux de croisière?
Par bateau.
D'accord.
Oui, alors, on est vraiment sur un niveau de pollution assez exceptionnel. En fait, ils prennent un pétrole qui est quasiment brut ou très mal traité, ce qui fait que ça pollue énormément.
D'accord.
Autant dire que les pistes de footing que l'on trouve parfois sur le pont de certains bateaux ne vont pas participer à améliorer vos capacités pulmonaires ni votre santé. Si c'est un danger pour les passagers et encore plus pour les employés qui vivent en permanence sous un pot d'échappement, c'est aussi dangereux pour les villes portuaires qui accueillent ces navires. À Copenhague, où il y a désormais plus de vélos que de voitures, donc c'est, je crois, la première capitale européenne où on est passé en nombre de vélos au-dessus du nombre de voitures, donc il y a 267 000 vélos contre 252 000 voitures. Chaque bateau de croisière qui fait le tour de la Baltique et vient s'amarrer multiplie donc par 5 la pollution du trafic automobile. Donc, comme il y en a toujours 2-3 qui viennent par jour ou par semaine à Copenhague, on voit à peu près les conséquences de cette activité sur la pollution. Alors, c'est pas un problème à prendre à la légère. On évaluait en 2011 à 50 000 le nombre de personnes en Europe qui décédaient chaque année en raison de la pollution atmosphérique. Sur Terre, on estimait que la limitation de la pollution des transports maritimes pourrait réduire de 40 000 personnes le nombre de décès chaque année. Mais pour cela, il faudrait que les propriétaires ne trichent pas aussi bien ou aussi mal, c'est selon, que les constructeurs automobiles. S'ils insistent sur le fait qu'ils ont fait des efforts, mis des petits filtres, aucune étude n'a encore démontré de résultats positifs en termes de réduction de la pollution. Ces bateaux sont aussi responsables de l'érosion importante que subissent les zones qui les reçoivent, en déplaçant jusqu'à 65 000 tonnes d'eau lorsqu'ils entrent, manœuvrent ou quittent un lieu. Ils ne font pas que déplacer l'eau, ils la polluent également et dégradent son écosystème et l'économie locale. La mer Noire, par exemple, a subi une invasion de méduses agressives importées par les bateaux de croisière venus d'Amérique du Nord, qui a amené à la destruction de l'industrie de la pêche locale. Donc ça a attaqué les anchois dans cette mer. En y ajoutant les tonnes d'eau usée, polluées en produits humains ou chimiques, et les pertes d'huile et d'essence causées par de mauvais entretiens, c'est un cocktail explosif qui se déverse dans les marinas, les mers fermées et au fond des océans.
C'est très positif tout ça, hein, c'est fou.
Ah, mais on prépare une belle semaine.
Ah oui, c'est impressionnant.
Cela nous amène à nous poser tout un tas de questions, mon cher Sylvain.
Absolument, je suis plein de questions là.
La première, c'est, est-ce que c'est pour se venger des icebergs que cette industrie pollue autant? Est-ce que c'est une circonstance atténuante?
Je suis d'accord, moi.
Face à ce désastre écologique flottant, que peut-on attendre comme évolution? Est-ce que les touristes s'informent et décident de changer leur mode de vacances en conséquence?
Eh bien, vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Matinale d'Acropolis.
C'est parti pour le prochain épisode. Eh bien, apparemment, non. Entre 2006
Incroyable.
Et 2016, le secteur de la croisière a connu une croissance de 65%, passant de 15 millions de passagers à près de 25 millions en 10 ans. La majorité des passagers viennent d'Amérique du Nord, 12,5 millions, et d'Europe, 6,5 millions. En Europe, ce sont les Allemands et les Britanniques qui sont les plus friands de ce type de voyage. Ils représentent 58% des passagers. Alors, je vois que le graphique que je t'ai envoyé est lisible.
Absolument. Bah, moi, je peux le lire depuis là où je suis, mais je pense que pour vous, ça va être très compliqué.
C'est particulièrement illisible. Mais je pourrais vous dire, et de toute façon, c'était pas sur le graphique, donc c'est très bien, que les Français ne sont, entre guillemets, que 570 000 à choisir tous les ans ces vacances. La plus grosse évolution vient de la catégorie « reste du monde », qui est essentiellement portée par la Chine et l'Australie. Cette zone, qui comptait pour 8,5% des passagers en 2006, donc on voit sur le petit graphique, ça comptait pour 1,29 million de passagers, a atteint près d'un quart des passagers en 2016, avec 5,5 millions de passagers en 2016. Ces nouveaux passagers ont vers des destinations qui augmentent leurs investissements dans le tourisme, comme l'Asie et l'Océanie, qui augmentent son nombre de lits touristiques tous les ans. Alors, les bateaux, ils amènent pas mal de pollution, mais ils amènent donc beaucoup de touristes. Et si c'est un afflux qui est toujours bon pour le business, apparemment, c'est pas toujours bon pour l'environnement. Surtout si l'environnement local et les populations ne se sont pas préparés à l'accueil de ces dizaines de milliers, voire de millions de touristes. Pour revenir dans l'océan Atlantique, l'Islande a connu un boom touristique dans les années 2010, sauf que les accommodations n'ont pas suivi et qu'on a retrouvé des excréments de touristes un peu partout sur l'île, notamment sur les tombes vikings. Certains lieux ont été tellement dégradés par ces afflux massifs et soudains que les autorités locales se demandent s'ils ne devraient pas tout simplement les détruire. Toutefois, certaines destinations emblématiques décident désormais de limiter l'impact de ces bateaux, qui, comme le bien mal nommé Harmony of the Sea, consomme près de 250 000 litres d'essence par jour, sans compter les tonnes quotidiennes de déjections liquides et solides. Est-ce que tu en veux encore, Sylvain ?
Je veux toujours plus.
C'est parti.
Mais alors, surtout, c'est le cas de... c'est une bonne mesure qui arrive, donc ça va.
Oui, là, on repart sur du positif, là. Alors, c'est le cas de Venise qui, le 7 novembre 2017, donc c'est quand même tout récent, a décidé de virer les grands navires du cœur de sa lagune. Alors, pas complètement, hein, vraiment du cœur de la lagune. Certains capitaines n'hésitaient pas à manœuvrer les 65 000 tonnes de leurs navires devant la place Saint-Marc, passant à quelques mètres des bâtiments historiques, et donc prenant des risques inconsidérés pour l'architecture, en érodant les sous-sols, dû au déplacement d'eau, tout en polluant la vieille ville. La ville de Dubrovnik a pris la même décision en août 2017. Certains se demandent même s'ils ne devraient pas être complètement interdits dans toutes les zones à risque, comme les sanctuaires écologiques, étant donné qu'il y a un rapport de confiance extrêmement limité entre les villes et les armateurs.
Rappelle-nous, Dubrovnik, c'est dans quel pays ?
C'est en Croatie, si ça n'a pas bougé depuis la dernière fois.
Absolument, c'est bien ce qui me semblait aussi, mais j'avais un doute.
Et le petit test comme ça, là.
Exactement. Et une question de Célan, des croisières avec des gros voiliers, c'est pas possible ?
Eh bien écoute, je ne me suis pas posé la question, mais je pense que ce serait beaucoup plus long.
Certainement.
Donc, mais après tout, pourquoi pas ? Moi, je suis pas contre. Si ça pollue moins, est-ce que les gens ont besoin de faire des milliers de kilomètres en deux semaines, s'ils peuvent profiter d'un petit voyage
Fanny demande si il s'était pas fait retoquer par la justice Venise par rapport à cette décision.
Ah, j'ai pas lu ça. J'ai lu pas mal d'articles récents et j'avais rien vu de tel. Mais ce serait triste, du coup.
Ben, plutôt. Nous vérifierons pour la semaine prochaine, ma chère Fanny. Rendez-vous la semaine prochaine sur la matinale.
À vérifier tout ça. Mais cela ne touche pas seulement les bateaux de croisière. Beaucoup de villes touristiques se posent désormais la question de l'impact du tourisme de masse sur leur lieu et mode de vie. En janvier 2017, Barcelone a dévoilé un plan pour limiter le tourisme. Donc, toutes les villes essayent de développer leur tourisme. Barcelone essaye de limiter le tourisme et de rendre aux habitants les logements du centre historique loués à plus de 60% à des touristes.
Les vrais fidèles d'Agropolis se rappellent qu'on en a parlé dans Party Time il y a 10 jours, il y a 10 jours, je ne sais plus la date exacte, le 1er juin peut-être. On a parlé de Barcelone, de la politique et notamment du tourisme de masse. Donc voilà, petit rappel, petit lien voilà. Bref, pardon. Je te laisse continuer.
Pas de souci. Mais du coup, quand il n'y a pas de réaction des politiques, cela déclenche parfois des réactions violentes de certains habitants. À Majorque et Ibiza, le groupe Aran Palma n'y va pas par quatre chemins. Ils ont attaqué ou envahi à plusieurs reprises des bus ou des lieux touristiques pour manifester leur envie de voir la masse de touristes disparaître de leur environnement. Il faut dire aussi que les modes de consommation et l'alcoolisation massive de certains groupes de touristes ne participent pas non plus à améliorer le ressenti des populations locales. Alors voilà, je me suis concentré sur les bateaux de croisière, mais j'aurais pu aussi parler de l'impact écologique global, de la dénaturation de certains lieux, Mont-Saint-Michel, c'est à toi que je parle, ou du bétonnage massif du littoral que certains gouvernements organisent en dérégulant, par exemple, la loi Elan. Pour finir, je rappellerai que le tourisme modifie également le vocabulaire. En raison de ses excès, le tourisme a vu un nouveau mot apparaître pour le définir ces dernières années, et être de plus en plus utilisé. Ça s'appelle over-tourism. Donc j'imagine qu'en français, ce sera traduit en sur-tourisme.
Et le graphique que tu nous montres à l'écran, là ?
Qu'est-ce que alors, oui, ça c'est l'évolution du terme over-tourism dans Google Trends, Google Tendance.
L'évolution le nombre de recherches de ce mot dans Google.
C'est ça. Donc on passe d'aucune recherche quasiment... depuis 2004 jusqu'à 2017, avec une évolution du terme depuis 2017.
Qui est assez significative, en effet.
C'est ça. Voilà, on a donné un nouveau nom à cette pratique du tourisme de masse, donc over-tourism, le sur-tourisme. C'est un peu l'évolution Pokémon du tourisme de masse. Et avec l'arrivée massive de touristes chinois, plus 1350% dans le monde depuis le début des années 2000, ce mot ne devrait pas disparaître.
Le mot Pokémon ou le mot tourisme de masse?
Les deux, mon capitaine.
C'est une excellente réponse. Merci Clément.
Bonne semaine.
Tu pars où en vacances cet été, toi?
Je vais me faire une petite croisière dans les Caraïbes avec la femme et les enfants.
Ça va être sympa.
Ça va être sympa, ouais.
Parfait. Eh bien, bonnes vacances alors, et à la semaine prochaine.
Merci à toi aussi.
À bientôt. En Corse, il y a des zones maritimes, je crois, interdites aux bateaux car zones protégées. Il faudrait faire ce genre de truc contre les bateaux de croisière dans les lieux fragiles. Bah, c'est un peu ça l'idée, c'est là dans les. À Dubrovnik, à Venise, c'est un peu le projet. Tourista, c'était déjà bien. C'est pas faux. Et le tourisme a créé de nouveaux troubles psychologiques. Les Français en Inde choqués par la pauvreté, les Japonais en France, effectivement. Comme le dit Célan, il y a des grosses distorsions entre la perception de l'étranger quand on l'a jamais vu et la vie sur place. Qui crée des grosses distorsions, effectivement. C'est assez marquant. Et ça se développe de plus en plus. Voilà une bonne semaine qui commence sous de bonnes auspices. Donc pensez-y, quand vous partez en vacances, votre voyage a un impact sur les populations, sur l'environnement. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas partir, mais faites-le de manière consciente, finalement. Hein. Et ne faites pas du greenwashing comme peut le faire. Elles peuvent le faire les compagnies de bateaux de croisière qui mettent des petits filtres qui font joli. Voilà. C'est une invitation, hein. Vous faites comme vous le souhaitez, évidemment. Alors, il est 9h02. On est dans les temps, tout va bien. Vous êtes sur Acropolis. J'espère que votre réveil se passe dans de bonnes conditions, que vous appréciez cette voix suave et enrouée du lundi matin. Nous allons enlever le petit logo 8h45 dans le monde, puisqu'il est l'heure de passer à la rubrique suivante. Et bonjour Arcturus, bon réveil. Comme vous le sachiez, après la chronique 8h45 dans le monde, il y a la gazette du dernier jour de la semaine. Et donc je remets le programme. Que va-t-il se passer cette semaine? Nous allons le savoir grâce à notre partenaire, qui n'est pas conscient de son partenariat, mais c'est pas grave. Voilà, alors au programme de la semaine. Lundi, donc aujourd'hui, hein, finalement, l'Assemblée nationale examine un projet de loi formation assurance chômage. Je vous propose qu'on en reparle subrepticement, juste après, quand on fera le programme parlementaire. Les députés et sénateurs doivent se mettre d'accord. Pareil, je vous propose qu'on en parle au moment du programme parlementaire. L'ouverture du CeBIT, l'un des plus grands salons high-tech du monde à Hanovre, en Allemagne. Ça commence donc aujourd'hui, ainsi que le Festival international du film d'animation d'Annecy. Voilà. Pourquoi tu mets les oiseaux entre parenthèses avec une question celle Neymar. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différents types de gazettes. J'ai pas compris, Zoldru, est-ce que tu peux expliciter ta tentative de second degré qui est certainement très drôle. Et il veut peut-être que tu les enlèves. Enlever les oiseaux? Non mais. Comment je fais mon greenwashing moi si je mets pas d'oiseaux en fond? C'est ça la vraie question. Demain donc, on en a parlé tout à l'heure, le sommet historique entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Singapour. Je vous rappelle que ça aura lieu à 3h du matin, heure française. Et donc demain matin, au réveil, on saura que Donald Trump a quitté le sommet au bout de 3 minutes et qu'il y a un nouveau conflit militaire entre les deux pays. Pronostic. Je ne le souhaite pas, évidemment. Mais je passe rapidement sur l'actualité parlementaire. Décision de la Cour d'appel de Paris au procès de Michel Néret, dont vous voyez la photo sur la gazette. L'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise, et ouverture de l'E3, la grande messe annuelle des jeux vidéo à Los Angeles, sachant que les premières annonces ont déjà été faites. Enfin, des premières annonces ont été faites, notamment cette nuit, et je ne sais plus qui dans le chat était présent et avait suivi toute sa nuit ces annonces. Avec plein de nouvelles sorties qui annoncent bien peu de productivité dans les mois qui viennent. Voilà. Mercredi, 42e congrès de la mutualité française à Montpellier. Alors, en préparant cette émission, je me suis dit, qu'est-ce que la mutualité française? Alors, est-ce que vous le savez dans le chat, qu'est-ce que la mutualité française? Je vous pose la question qui me permet de gagner du temps sur le fait de pouvoir boire mon café. Absolument pas, nous dit Kylian. La fameuse tasse nous dit Saint-Lémar, ce qui ne répond pas à la question. Effectivement, la fameuse tasse qui nous a été offerte, qui m'a été offerte par ce bon Perceval. C'est quand tu prends un café au Crédit Mutuel, merci Zoldru. Société qui gère des maisons de retraite. Effectivement, Emeline, mais c'est, elle fait autre chose que gérer des maisons de retraite. Et bonjour au passage. Qu'est-ce que c'est? Alors, la mutualité française, merci de me poser la question. En fait, c'est une fédération de quasiment toutes les mutuelles en France, toutes les assurances santé, en fait, en France, tout simplement. Donc cette fédération se réunit en congrès mercredi, en présence notamment d'Emmanuel Macron et de Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Voilà. Vous êtes content d'avoir appris ça, hein? Je suis sûr que ça va éclairer votre journée et votre semaine, vous allez... Ouh. Donc tu nous as demandé si on le savait juste pour nous humilier en nous donnant la réponse. Absolument pas, Zoldru, je vous partageais l'information parce que moi-même je ne savais pas exactement comment définir la mutualité française alors que j'ai moi-même travaillé dans le monde de l'assurance. Quelle honte, quelle indignité. Bon, je suis bien fait de partir, remarque, mais... mercredi toujours, inauguration du musée national Clémenceau en présence d'Emmanuel Macron à Mouilleron-Saint-Germain. Je ne sais pas où c'est du tout. Toujours mercredi, la justice française se prononce sur la demande d'extradition par le Burkina Faso de François Compaoré, frère du président déchu. Nous aurons également des élections locales et législatives partielles en Corée du Sud. Les députés argentins votent sur la légalisation de l'avortement. Et enfin, 68e congrès de la FIFA à Moscou où sera annoncé l'organisateur du mondial 2026. 8 ans avant, le temps de construire les stades, évidemment. Jeudi, discussion au Sénat sur la loi controversée du secret des affaires, on en reparle tout de suite après. Russie, Arabie Saoudite, match d'ouverture de la Coupe du Monde de football en Russie. Alors j'imagine que vous avez suivi le fait que nous allons commencer la Coupe du Monde de football comme tous les 4 ans, que vous allez bouffer du foot tous les jours, plusieurs fois par jour, et si la France se qualifie jusqu'à la finale, vous allez en bouffer encore plus, voilà. Donc soyez prêts, ça va bien se passer, soyez calmes. C'est qu'un mauvais moment à passer pour ceux qui n'aiment pas le foot. C'est qu'un bon moment à passer pour ceux qui aiment le foot. Et pour ceux qui aiment la bière aussi, c'est un bon moment à passer. Si la France est en finale, édition spéciale sur Acropolis le 15 juillet. Je suis pas certain qu'il y en a. Je serai certainement pas en état... physiologique de faire une édition spéciale. Journée nationale des manifestations des retraités contre la hausse de la CSG jeudi. J'ai plein d'idées pour faire des blagues sur cette manifestation, mais je ne les ferai pas par respect pour cette génération de population. Ensuite, il y aura la désignation du nouveau maire du Mans après le décès de Jean-Claude Boulard, le maire précédent. Et également le début de la 48e édition de l'Art Basel, la foire internationale d'art contemporain de Bâle, en Suisse. Vendredi, 9e journée nationale de l'archéologie en France. La Fashion Week masculine printemps-été à Milan, à laquelle nous n'avons pas été invités contre toute attente. Je ne comprends pas. Et le Parlement portugais vote une loi sur la légalisation du cannabis à usage thérapeutique. Parenthèse, le think tank Europa Nova et je ne sais plus quel organisme en ont fait un sondage récemment qui indique que 51% des Français seraient favorables à ce que le cannabis soit légalisé et très encadré en France. Et c'est la première fois qu'un sondage en France va en faveur d'une légalisation, même partielle, du cannabis. Alors, est-ce que c'est juste un sondage? Est-ce que c'est une première étape? Est-ce que c'est une évolution de la société? Voilà, une grosse question. Mais le débat est de plus en plus présent dans la sphère publique. Joyeuse matinée à tous, pour une fois que j'arrive à rattraper la matinale. Bienvenue Maximalum. Bon matin. Les Français sont des hippies. Ah bah évidemment, c'est là, évidemment. Samedi, premier match de l'équipe de France de football. Donc contre l'Australie. Et ce sera en Russie. La Coupe du Monde, elle est en Russie. Ça tombe vachement bien. Et donc, je ne serai pas disponible à ce moment-là. Voilà. Arcturus, bientôt, le cannabis noté sur TripAdvisor, exactement. Visite du Dalai Lama en Lettonie, samedi, et vente aux enchères de 49 œuvres de l'écrivain aviateur Antoine de Saint-Exupéry à Paris. Et enfin, dimanche, second tour de l'élection présidentielle en Colombie. On en avait parlé il y a quelques semaines sur la matinale, dans la matinale. Et notamment la possibilité de la fin du protocole, du processus, des accords de paix avec les FARC, notamment, et qui posent de vrais problèmes en Colombie. Donc on en reparlera certainement lundi prochain, même si, vu que l'élection aura lieu le dimanche, avec le décalage horaire, j'ai peur qu'on n'ait pas les résultats le matin. Excellente blague de Zoldru. On dit que les prix de cette enchère vont s'envoler, puisqu'il s'agit d'un aviateur. Le bon Antoine de Saint-Exupéry. Et désormais, Zoldru, est-ce que tu veux nous dessiner un mouton, s'il te plaît? Merci. Voilà, sur cet humour de qualité, je vous propose de passer à la suite du programme de cette émission, alors qu'il est 9h11 et 50 secondes, et que je dis bonjour à The Tevman, qui vient d'arriver. L'équipe de rédaction sera au taquet jusqu'à la fin de la matinale, afin d'avoir les résultats. Merci, Kylian. Alors... Nous passons à l'actualité par le programme parlementaire de la semaine. Et cette semaine, nous avons, grâce à l'équipe de rédaction de cette matinale, toutes les informations directement dans le Framapad. Framapad que je vous repartage si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce qui s'est dit ce matin, pour ceux qui arrivent maintenant, pour ceux qui étaient là avant, pour ceux qui seront là après. Excusez-moi, je suis un peu perturbé par des tentatives de trollage de la part du chroniqueur de cette émission. Que je dénonce ces actes de tentative totalement déplorables et malveillants. Voilà, je tiens à le signaler. Programme de la semaine à l'Assemblée nationale, discussion du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ça commence aujourd'hui, ça aura lieu toute la semaine. C'est projet de loi orientation, projet de loi formation professionnelle. Voilà, tout le sujet qui va... va occuper toute la semaine sur nos amis députés, nos amis qualifiés de feignants, qualifiés de fatigués, et voilà. On va en parler toute cette semaine. Mardi, les questions au gouvernement et explication de vote et vote du projet de loi évolution du logement, la fameuse loi Elan, qui est controversée notamment pour le passage de 100% à 10% de l'obligation de mise en accessibilité des nouveaux logements construits en France. Petite remarque, l'explication de vote et le vote du projet de loi qui a été discuté la semaine dernière n'aura lieu que mardi, non pas aujourd'hui, puisque il y a beaucoup de députés qui sont en circonscription le lundi et qui n'arrivent que le mardi à Paris pour travailler sur les séances publiques et les commissions. C'est pour ça que les votes ont lieu plutôt le mardi et pas le lundi. Voilà. Et c'est pas parce qu'ils font de l'absentéisme. La seule liberté de choisir pour l'instant, c'est le chômage. Oh. Suite, Fanny. Mercredi, les QAG, et surtout, aujourd'hui, on a une commission mixte paritaire qui se réunit entre l'Assemblée et le Sénat au sujet du pacte ferroviaire, la fameuse réforme de la SNCF, dont on a un petit peu parlé ces dernières semaines. On a entendu un petit peu, deux, trois mots qui ont été échangés à ce sujet. Et donc, le résultat de ce travail qui a lieu aujourd'hui, explication de vote et vote, sur le texte final, donc, mercredi, à l'Assemblée nationale. Et dans la foulée au Sénat, certainement. Jeudi, on est sur le résultat de la commission mixte paritaire également, qui, bonne journée Nibel, qui planche sur la proposition de loi relative à la protection du secret des affaires, l'application du texte européen sur le secret des affaires, qui est également controversé. Donc, on en saura plus jeudi sur les contours finaux. Je ne sais pas si c'est français de dire ça comme ça, mais vous avez compris l'idée. les contours finaux de la loi sur la protection du secret des affaires. Ah bah j'en parlais aussi, j'ai bien fait de venir tôt, comme ça j'ai des news. Tu parlais de la réforme ferroviaire, Tavman. Et jusqu'à la fin de la semaine, suite de la discussion du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il est 9h15 et 30 secondes. Exactement, très bien. Eh bien, on aura le texte final mercredi. Enfin, le vote à l'Assemblée mercredi. Le texte final devrait être ce soir. A priori, d'après les infos, c'est les amendements passés au Sénat vont être validés par l'Assemblée. A priori. Ça peut encore changer. Alors, au Sénat, ça commence demain pour les séances publiques. Hein, et peut-être du travail, certainement du travail aujourd'hui. Mais explication de vote des groupes sur la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. Proposition de loi très technique. Pas perdre de temps avec ce genre de sujet dont je ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Voilà. Également proposition de loi relative à l'équilibre territorial et la vitalité de la démocratie locale. Je ne sais pas non plus de quoi il en retourne, mais ça a l'air tout à fait intéressant. C'est imposé par le gouvernement ce premier point. D'accord, Kylian. Mercredi, suite de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale. Et proposition de loi portant pacte national de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Rien à voir avec la Bourgogne, malgré... Voilà, vous avez compris. Pas la peine d'en dire plus. Tout le monde sait très bien de quoi je parle. Hein, voilà. Jeudi, sous réserve de leur dépôt, conclusion de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Donc voilà, c'est mercredi à l'Assemblée, jeudi au Sénat, vote du texte final sur le pacte ferroviaire, sur la réforme de la SNCF. Et suite de la proposition de loi portant pacte de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. L'après-midi, proposition de loi tendant à imposer au ministre des cultes de justifier d'une formation les qualifiant à l'exercice de ce culte. Ministre des cultes, ce sont les imams, les prêtres, les rabbins, voilà, les prédicateurs finalement de chaque culte. À 18h30 et le soir, suite de la proposition de loi portant pacte de national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Et vendredi, ça continue, mais c'est pas encore certain. Le Christ cosmique est-il ministre d'un culte? C'est une vraie question, Célane. Je vous laisse en débattre dans le chat si cela vous semble intéressant comme sujet. Pendant ce temps-là, moi je vous propose de passer à la programmation de la semaine sur la chaîne Acropolis. Si vous connaissez Acropolis, vous savez de quoi il en retourne. Ah, j'aurais pas dû faire ça, parce que c'est pas très joli. Donc je vais mettre en place une petite réforme de l'overlay, parce que c'est notre projet. Et ainsi créer une petite animation de qualité. Voilà. C'est beau. Mais si je lis ton petit déj, j'aimerais bien que ce soit ça tous les matins. Il y a des ministres du culte, du pastafarisme et du dudisme. Je te propose de poser la question à ton sénateur Arcturus. Il a certainement travaillé sur le sujet, il saura t'en dire plus à ce moment-là. La programmation de la semaine sur Acropolis. Nous avons donc lundi, comme un lundi, finalement. Hein, parce que vous êtes dans cette émission et c'est le moment de cette émission. Mardi, les QAG à 14h30, comme chaque semaine. Et j'attire votre attention sur le fait que demain, donc, Idée Économie Stupide ne sera pas à 20h, mais à 18h30. Pourquoi, me direz-vous? C'est une excellente question à laquelle je vais vous proposer une réponse. Eh bien, pour la simple et bonne raison que l'invité n'était pas disponible à 20h, donc l'émission commencera à 18h30. Vous notez dans votre agenda ou vous l'ajoutez en cliquant sur le petit « Ajouter à mon Google Agenda ». Merci, c'est là, il y en a un qui suit, c'est intéressant. Ajoutez mon Google Agenda, comme ça vous aurez l'actualité directement dans votre Google Agenda, comme son nom l'indique. Voilà, et je peux même d'ores et déjà vous annoncer le nom de l'invité, parce que vous m'êtes sympathique, il est 9h20, et c'est le moment de la sympathie. Il s'agit, c'est marqué sur le document, hein, il s'agit de Arthur Charpentier, je ne connais pas encore du coup, et le sujet sera le rythme, le risque et l'algorithme. Voilà. Vous en saurez plus demain soir à 18h30. J'insiste sur le 18h30. Mercredi, les QAG à 14h30. Jeudi, party time à 14h30. Pourquoi il n'y a pas la libre antenne? Ah oui, il n'y a pas de libre antenne jeudi. Effectivement. C'est vrai. C'est normal. Donc, jeudi, vous n'aurez pas de libre antenne. Et oui, Fanny, on peut ajouter son agenda depuis 3 semaines, je crois, depuis la mise à jour de cette magnifique page programmation par l'équipe de Salim et de Kobaou, de développeurs de qualité au service de la communauté, au service du don de soi, finalement. Et pourquoi Kylian? Eh bien, parce que Jean Massia ne sera pas disponible pour pratiquer cette libre antenne, tout simplement. Voilà. Et donc, dernière émission de la semaine à 14h30, jeudi. Voilà. Alors, nous revenons ici. Tac, vous ne le voyez pas ici. A été ajouté à ce Framapad, dont je vous partage une nouvelle fois le lien dans le chat. Je reviens après ce qu'il y a sur le texte. Ah ouais, donc la semaine se termine le jeudi pour vous. Alors, non. L'antenne termine son travail à 16h environ jeudi. Mais je peux t'assurer qu'on a plein de travail et que certains travailleront plus que d'autres. Mais voilà. On me dit que la libre antenne sera faite par Sylvain car il est pro et il est classe. Et non. Fake news. Mon cher Célane, ce n'est absolument pas le cas. Ah tiens, je peux vous parler de ça, effectivement. Eh, je vais désactiver les notifications, merci. Oui, je sais que c'était pour plaisanter, Tavmania, pas de soucis. Faut que je vous montre un truc. Bon, je suis assez fier. On en a parlé sur le Discord, et ça a encore évolué depuis, sur Acropolis, et je reviendrai sur l'actualité juste après. Acropolis, alors c'est très moche, hein, je suis désolé. Acropolis recrute un stagiaire, et nous avons pour la première fois un site qui présente l'offre de stage, avec le descriptif du poste, avec le à propos, avec plein d'informations, le profil recherché, le process de recrutement, les informations complémentaires, le salaire, puisque nous payons nos stagiaires chez Acropolis, n'est-ce pas, cher stagiaire qui est présent dans le chat? Et vous pouvez postuler directement depuis ce site. Voilà. Donc si vous connaissez des gens qui ont une fibre commerciale dans l'âme, qui ont envie de porter le projet d'Acropolis auprès des institutions, des collectivités, notamment en préparation des municipales, par exemple, hein, dont on parlait tout à l'heure, eh ben, n'hésitez pas à leur partager ce lien, cette annonce. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez en savoir plus. Et je suis assez fier d'avoir notre première annonce mise en ligne sur Internet, sur un site. Et c'est quand même une sacrée étape dans le développement du projet. 5 à 600 euros par mois. Ah oui, 5 et 600. Oui, c'est parce que, en fait, voilà. C'est parce que c'est Jean qui a fait l'annonce. Je vais corriger, merci Kylian pour cette remarque. Et ben, vous êtes bien plus carré que beaucoup de boîtes qui n'ont pas de site du tout pour ce genre de choses. Alors c'est un service qui nous est proposé, service externe qui nous est offert à nous parce qu'il y a plein de raisons. Mais voilà, c'est un site qui gère ça et qui permet à nous de gérer les candidatures en fait de manière cohérente, de pouvoir répondre à tout le monde de manière facile. Parce qu'on répond à tout le monde également. Et voilà. Oui, Kylian, en fait, il a raison, Zutavman. C'est entre 500 et 600 euros par mois. C'est pas 500 et 600. Bougre, tu me fais douter comme ça de bon matin. C'est pas bien. Parlons des municipales. Tu comptes te présenter à Dijon. Une question de Maximalum. Réponse Maximalum. Je pense que Dijon compte se présenter à moi. Et c'est là tout l'intérêt de l'élection municipale de 2020, évidemment. Oui, oui, mais je m'indignais du salaire, en fait, pas de l'écrit. Ben, c'est le salaire minimal des stagiaires. Mais pour le coup, il est hors de question. Alors, c'est bas, on est d'accord. On pourrait en débattre très longtemps de la rémunération des stagiaires. Et en même temps, on pourrait aussi recruter des stagiaires de mois de façon de ne pas les payer. Donc par rapport aux moyens dont on dispose actuellement, le jour où on pourra avoir une personne à plein temps et un stagiaire avec elle pour apprendre le métier, ce sera encore mieux. Pour l'instant, on ne peut pas faire autrement si on veut avoir quelqu'un pour développer le projet, de proposer ce genre de rémunération. C'est ça l'idée en fait. On aimerait beaucoup payer plus les gens. Moi le premier, évidemment. Mais voilà. En plus, j'imagine que pour Acropolis, c'est pas rien, un salaire comme ça, bah c'est un peu l'idée, ouais. Et c'est plus de. Ouais. Bon, au début, on rêvait d'avoir une personne à plein temps qui se mette sur Acropolis et qui ne se paye que quand ça se développe, mais des gens disponibles pour travailler bénévolement à plein temps, c'est compliqué. Donc voilà, si vous connaissez des gens qui sont à Sciences Po, qui veulent faire une année de césure, qui sont en école de commerce et qui aiment l'intérêt général et la démocratie, bah, n'hésitez pas à leur en parler. Et on les accueillera dans de très bonnes conditions. Et évidemment, avec le salaire entre 500 et 600 euros, des fois j'offre les croissants, des fois on offre le déjeuner. On est sympa en fait. On n'est pas juste des salauds de patrons. Pas encore. On sera au CAC 40, ce sera autre chose évidemment. Mais pour l'instant, c'est pas le projet. Alors, on passe aux informations scientifiques de la semaine qui m'ont été proposées. Ils seront bizutés à leur arrivée, évidemment. Les infos scientifiques de la semaine. Précision sur les infos de la semaine dernière. Le budget de l'administration Trump alloué à la NASA pour l'année 2019 ne porte aucune directive qui mentionne le retrait des États-Unis de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Il est vrai néanmoins que cette administration demande à la NASA de focaliser ses ressources sur des technologies permettant de retourner sur la Lune avec pour objectif à long terme d'aller sur Mars. De plus, la NASA devra petit à petit, d'ici à 2025, transférer ses activités de ravitaillement et de recherche de l'ISS à des organismes privés. Dans son rapport 2018 au personnel, le directeur de la NASA ne mentionne pas de retrait de l'ISS et affirme même sa volonté de renforcer la présence américaine à bord. Il est également important de rappeler que le budget 2019 n'engage en rien l'administration des USA ou la NASA sur le long terme, de nouvelles directives pouvant être votées par les prochaines administrations. Je pense qu'il y a eu un raccourci qui a été fait entre le fait que la NASA allait transférer ses activités de ravitaillement et de recherche de l'ISS à des organismes privés avec le retrait des États-Unis de l'ISS. C'est peut-être ça le raccourci qui a pu être fait. Voilà, donc on en sait un peu plus. Merci pour ces précisions. Quatre infos scientifiques en plus. Infos écolo de la semaine, on a eu quelques infos écolo de la semaine en fait. Je vous propose d'aller consulter ces informations parce qu'il est déjà 9h28, qu'il va être temps de mettre un terme à cette émission parce que j'ai plein de rendez-vous et plein de trucs à faire aujourd'hui. J'organiserai mieux la semaine prochaine, promis, des infos scientifiques, mais c'est vachement intéressant en fait. Il y a plein de sources, il y a plein d'informations. On les mettra en description de la vidéo, évidemment. Et voilà, je prendrai maintenant à raconter ma vie la semaine prochaine. Promis, je m'y engage solennellement. Nibel01, pour te répondre, on ne peut pas avoir de service civique parce que nous ne sommes pas une association, encore. Et donc, que les associations ou les sociétés coopératives ou des statuts spécifiques qui peuvent demander des services civiques. Donc pour l'instant, on ne peut pas. Peut-être qu'un jour, on pourra. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, il est 9h29 et 30 secondes. Je vous propose de clôturer cette émission de qualité par un hasta la vista bye bye, évidemment qui correspond. Info nucléaire de la semaine. Ah, sur Tchernobyl, cool. Pour bien finir la semaine, on parle de Tchernobyl, d'énergie nucléaire. Alors moi, je vous propose de remercier Kylian qui a préparé cette émission avec une détermination, une qualité exceptionnelle. Merci à tous d'avoir été présents ce matin dans le chat, réveillés, dynamiques et tout ça finalement. Bonne journée, bonne semaine. Merci pour ce moment. Je vais arrêter la musique parce qu'il faut, il faut mettre un terme à cette propagation musicale de type oiseau. On va les laisser retourner, me lâcher des cacas sur moi, hein, finalement. Et rendez-vous pour la matinale lundi prochain pour Acropolis, les QAG, demain à 14h30. D'ici là, bisous, portez-vous bien et bon café à tous.